Vous êtes sur RTL.
Ils auront la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Eric, donc, qui habite Montpellier. Rebonjour Eric.
Rebonjour Pascal.
Donc on a pu solutionner le problème avec votre maman. Comment ça s'est passé ?
Alors exactement, par rapport à l'intervention d'hier après-midi, donc vous avez fait appel au maire. Le maire m'a rappelé le soir, il était 19h30, il rentrait en réunion, il m'a dit « je vous rappelle après ». Et donc le maire a rappelé pour me dire qu'il y avait une place pour ma maman à 5 km de chez elle, à Fleury-les-Aubrais, voilà, au centre de... Voilà, donc ma maman va se faire vacciner cet après-midi à 14h30 à Fleury-les-Aubrais. Au lieu de faire 50 km, elle va en faire 5.
Et comment va aller votre maman?
C'est mon frère qui habite pas trop loin qui va aller la déposer.
Voilà. Alors, ce qui est terrible, c'est que comme nous, on connaissait évidemment Serge Gouard, on est entré en contact avec lui, et comme l'affaire a été médiatisée, on a trouvé une solution, mais évidemment, tous les maires de France ne peuvent pas passer par RTL, ou tous les auditeurs de France ne peuvent pas passer par RTL lorsqu'ils ont un souci avec leur mère ou leur père pour une vaccination de personnes âgées.
Non, mais moi, je remercie le maire d'Orléans, que je connais pas plus que ça, sauf qu'il a été officier. Moi, j'ai été aussi officier. Mais,
vous avez pu avoir une conversation.
On a eu une bonne conversation.
Les maires, ils sont impliqués dans, c'est ça qui est formidable avec les maires, parce qu'il prend son téléphone et puis il essaye de trouver des solutions.
Mais écoutez, c'est là où je trouve que il y a un dysfonctionnement, c'est que nos ministres, l'État devrait faire confiance à nos maires. Ils ont été élus de proximité, c'est des gens qu'on connaît. Et ils sont là à même pour... C'est des hommes de terrain, les maires. Alors que nos ministres, ce ne sont pas des hommes de terrain.
Et même parfois, ce sont des femmes de terrain, puisque Florence Portelli était tout à l'heure avec Christelle Robière, et elle est sur cette position. Bien sûr que les maires savent faire, parce qu'ils connaissent leur administré, ils connaissent le fonctionnement de leur administration, et que ça peut être plus rapide et efficace. Écoutez, c'est bien, Eric.
Moi, je veux pas, par rapport aux auditeurs, je veux pas qu'on passe pour des privilégiés. Non, ça a été un contact par hasard.
C'est objectivement un privilège. Mais c'est le privilège de la médiatisation. Vous n'y pouvez rien. D'abord, c'est moi qui vous l'ai proposé hier.
Bien sûr, mais je reconnais. Je vous rassure, ma maman m'a dit des grands merci. Elle m'a dit, comment tu as fait? J'ai dit, écoute, j'ai voulu pousser un coup de gueule, entre guillemets, par rapport à cette organisation. Et puis, c'est arrivé comme ça.
Mais bien sûr que c'est un privilège. Mais je le disais, ce privilège, hélas, il ne peut tous les auditeurs ne peuvent pas nous appeler parce qu'on n'aurait pas assez de temps d'antenne pour les écouter.
Mais ce privilège, il aurait pu être évité si l'État faisait confiance aux maires. Et il n'y aurait plus de privilèges, ça serait tout le monde est pareil. On peut aller se faire vacciner, les gens qui ont 75 ans, chez leur médecin, parce que il y a des doses et puis il peut y avoir un suivi. Le médecin peut simplement dire, j'ai vacciné tant de personnes avec les âges et tout, et après on recentre ça. Et peut-être que je suis pas dans un autre monde, mais j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça à faire.
Eric, elle s'appelle comment votre maman?
René,
ça c'est un prénom d'une femme de 90 ans. Il y en a plus beaucoup de René.
Eh oui, René, elle s'appelle. Oui, oui.
Exactement, c'était un prénom à la mode. Donc elle est de 1930.
Ouais, c'est ça.
1930. Voilà. Vous vous rendez compte? Merci beaucoup Thierry.
Mais de rien, c'est moi qui remercie RTL.
Si elle pourrait nous passer un petit coup de fil demain, vous pensez, René? Vous lui demandez.
Je vais lui demander.
Vous voyez, hein, parce qu'on aura eu comme ça toute la famille. Je le dis à Laurent Tessier, si on peut avoir René demain, on aura un feuilleton tous les jours. Merci Eric,
13h05. Okay, merci.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Trump qui s'en va. Trump, nous sommes avec... quelle heure est-il à Washington? Il est 6 heures de moins, donc il doit être 7 heures du matin. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Ceux qui écoutent régulièrement l'émission savent que vous intervenez, puisque vous êtes un chef d'entreprise qui est à Washington. Parfois vous êtes en France d'ailleurs. C'était le cas pendant les fêtes. Mais là, vous êtes de retour à Washington?
Non, je suis en France.
Encore? Vous êtes un chef d'entreprise français, en fait.
Non, je fais les deux. Mais
pourquoi vous n'êtes pas reparti? Depuis les fêtes, vous n'êtes pas reparti?
Alors, je suis reparti une fois, je suis rentré il y a 3 jours.
D'accord. Trump, qu'est-ce que vous allez retenir de lui?
Trump, je pense que ce qui est à retenir, c'est la façon dont il sort, qui aura été à l'image de son administration, c'est-à-dire très, très, très polarisé. Une sortie pas très classe. Mais Trump est déjà en train de travailler sur sa reconversion dans les médias, comme vous le savez, avec sa chaîne ultra-conservatrice, avec ses 74 millions d'électeurs. Et ensuite à cela, je pense que Trump prépare une plateforme électorale pour son fils là, en 2024, qui ne sera pas élu en 2024, mais qui a peut-être une chance en 2028.
C'est à voir loin. Vous pensez que lui, en 2024, c'est terminé pour Trump? La société américaine n'a pas accepté sa sortie?
Oui, c'est ça. Il y a deux choses. La première, c'est son ego qui fait qu'il a été battu deux fois au vote populaire, une fois contre Hillary et puis plus récemment contre Joe Biden. Et le deuxième élément, c'est celui des événements du Capitole, où aujourd'hui le Parti républicain se désolidarise de sa politique. Et on peut s'attendre à ce que Trump et famille créent un nouveau parti politique sur les cendres du Tea Party qui avait, à son époque, fait un petit peu de bruit au moment de l'élection entre Barack Obama et, j'ai oublié le nom de son compétiteur. Mais voilà, je crois qu'on est parti sur l'ultra-conservatisme. La plateforme, ce sera la chaîne télé. Il a certainement déjà sécurisé un certain nombre de donateurs pour faire en sorte de mener ce projet à bien. C'est un showman, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la production audiovisuelle. Il saura faire. Il sera rejoint par les nouveaux penseurs de la droite ultra-américaine. Et je pense que l'idée, c'est de faire vivre la marque Trump au-delà de ces 4 ans d'infortune.
Il s'est adressé une dernière fois hier au peuple américain. Il a invité les Américains à prier pour le succès de la future administration Biden dans une allocution de fin de mandat. Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir l'Amérique en sécurité et prospère. Il était pour le coup assez digne hein, dans cette dernière allocution. Donc il est aujourd'hui reparti en Floride chez lui, à suivre également des fraudes fiscales, affaires de fraude fiscale pour Trump, affaires de plaintes sexuelles également. Donc l'avenir peut paraître également sombre pour celui qui sera dans quelques instants l'ex-président de l'Amérique. À tout de suite après la pub.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et avec Laurent Tessier à 13h11.
Bonjour.
On retrouve
Pascal
désormais en fin d'émission, tous les jours, vers 14h20 pour un débrief avec les meilleurs passages de l'émission et notamment les meilleurs punchlines des auditeurs.
Eh oui, vivement 14h20. Mais en attendant, une page se tourne aux États-Unis à 18h en française. Joe Biden prêtera serment. Il deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. Donald Trump a posté une vidéo d'adieu hier.
Je me suis battu pour vous. Je me suis battu pour vos familles. Et avant tout, je me suis battu pour l'Amérique. Cette semaine arrive une nouvelle administration et nous prions pour son succès, qu'elle puisse maintenir l'Amérique en sécurité, prospère.
Que retiendrez-vous des 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche? Vos messages, vos réactions sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Et bien pour Titi, un président sans nouvelle guerre et ce n'est pas rien. Olivier en est persuadé, ainsi la crise du Covid-19 ne s'était pas invitée dans la partie. Il aurait été l'un des présidents américains les plus performants. Didier, lui, serait presque nostalgique de ses prises de parole dans les médias. Béa préférait le parler d'une bonne nouvelle pour tout le monde. Bernard parle d'un populiste narcissique, un mépris de l'écologie, des scandales, une absence d'humanité, une fin de mandat pathétique, une honte pour la démocratie. Et Donald Trump, finalement, est le meilleur commercial de Twitter, ironise Thierry sur nos réseaux sociaux, le plus comique de tous les présidents. En fait, bon, je m'en moque, je m'intéresse plus à mon pays.
Que retiendrez-vous des 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche? C'est la question que nous posons. Nous sommes avec Christian, qui est éducateur à Plaisir. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Dans les Yvelines.
Oui, tout à fait. Ben moi, ce que je retiendrai des 4 années, c'est qu'il a quand même, sur le point de vue économique, eu quand même remis les États-Unis quand même bien dans le droit chemin. Il a quand même fait baisser le chômage pendant ces 4 années. Il y a eu la crise du Covid, mais malheureusement, ces mesures protectionnistes ont quand même porté leurs fruits. Et effectivement, comme l'auditeur, on a pu entendre... Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, il aurait vraiment remis le pays, les États-Unis, sur une bonne économie. Donc je trouve ça un peu dommage. Et ce que je trouve un peu dégradant, c'est l'investiture, l'image que l'on voit de l'armée qui déploie 25 000 personnes pour une investiture, qui est plutôt quelque chose de festif. Ça en dit long quand même sur les circonstances, sur le devenir du moins de ce qui va se passer dans ce pays. Parce que si l'armée se mobilise à ce point, c'est à se poser des questions.
L'épisode du Capitole quand même a laissé des traces.
Complètement. Et justement,
et il en a une part de responsabilité, convenons-en.
Oui, mais je pense que Trump n'a pas dit son dernier mot et je pense qu'il reviendra vite sur le devant de la scène.
Il n'empêche que moi je ne veux pas faire d'anti-Trumpisme primaire parce que je suis parfois agacé effectivement dans les médias français d'une forme d'anti-Trumpisme primaire qui existe. Je suis d'accord sur ce point avec vous. Mais en même temps, la fin de son mandat est lamentable. C'est-à-dire que quand tu es un démocrate... qu'il est, malgré son étiquette républicaine, tu acceptes le verdict des urnes. Quand toutes les plaintes qui ont été déposées, aucune n'est validée par aucun juge, tu reconnais ta défaite et puis tu fais preuve de classe et d'élégance, comme l'a fait par exemple Nicolas Sarkozy très bien, quand il a été battu, que ce soit d'ailleurs dans un scrutin national ou même dans un scrutin primaire de la droite. Il y a une forme d'élégance à reconnaître une défaite. Et François Hollande, de la même manière, avait accepté cette défaite.
Oui, mais alors, je pense que le camp de Trump n'a peut-être pas dit son dernier mot, justement, par rapport aux élections. Peut-être qu'ils attendent l'investiture de Biden pour pouvoir ressortir par la suite des dossiers, peut-être compromettants.
Christian, écoutez, on n'en est plus là. Vous-même, vous pensez vraiment que... il y a des dossiers à sortir au lendemain de l'investiture. Vous ne pensez pas que si le camp républicain ou le camp Trump avait des dossiers, il les aurait sortis depuis le 4 novembre dernier ?
Peut-être pas là le jour J de l'investiture, mais dans les mois à venir ou dans les années à venir.
Oui.
C'est malheureusement.
Enfin, ça n'empêche pas que l'attitude de Trump n'est pas convenable. On peut au moins se rejoindre là-dessus, quels que soient les résultats qu'il ait eus pendant ces 4 ans de mandature.
Bah, ce qui est à déplorer, c'est effectivement les incidents du Capitole. Après, libre à lui de ne pas accepter la défaite. Après, ça le regarde. Il a pas envie
de
venir.
Non, ça ne le regarde pas. Ça nous regarde, si vous me permettez. Ça nous regarde. Qu'un dirigeant n'accepte pas sa défaite, ça nous regarde.
Mais je pense que s'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et je pense que par la suite, on aura peut-être des dossiers qui ressortiront.
Vous êtes alors, un trumpiste. Mais vous avez le droit, Christian.
Alors, honnêtement, loin de moi.
Vous avez le droit, donc vous avez le droit, hein, je ne le reproche pas.
Ni l'un ni l'autre, mais comme vous aviez dit, moi je fais plutôt. Je remets l'équilibre par rapport aux médias, aux journalistes français qui sont plutôt pro-Biden. J'essaie de voir.
Ils ne sont pas tant pro-Biden qu'anti-Trump d'ailleurs, mais.
Donc moi je dis qu'en plus l'armée qui est déployée comme ça, est-ce que c'est l'armée qui est en dessous, en sous-main pour mettre en place les pions Biden ou Trump? Bon, on ne sait pas. Mais on a pu voir par le passé en France que malheureusement, que ce soit comme Nicolas Sarkozy, finalement qui a été impliqué dans des affaires de justice par la suite, et il a quand même été président. Donc et les dossiers sont sortis plusieurs années après, comme la plupart d'ailleurs, donc ça se posait des questions. Donc je pense que Biden ne doit pas être tout blanc non plus. Donc, on verra par la suite, et je pense qu'on aura des surprises.
Bah merci Christian. Romain est là également.
Merci à vous, et je vous souhaite une bonne journée.
J'attends
toujours ma montre, par contre.
Pardon ?
J'attends toujours ma montre.
Non, mais pourquoi vous n'avez pas votre montre ? Mais ça, c'est Greg Caradoni, parce qu'il est vendu. J'ai vu Greg Caradoni vendre des montres à la sauvette. À la sortie d'RTL, les montres pour les auditeurs, il les vend. Donc c'est très Greg.
Mais vous plaisantez, j'espère.
Je plaisante, je vous confirme.
Si on a dit à Monsieur Christian qu'il fallait une montre, ça faut lui donner.
Je vais reprendre le dossier en main dès l'écran publicitaire. Mais... En tout cas, Christian, en attendant, je peux vous dire qu'il est 13h17, si ça peut vous aider.
Si à chaque fois qu'il veut l'heure, il vous appelle, c'est pas très pratique pour lui.
Je fais ce que je peux en attendant.
Non, Christian. Bon,
merci beaucoup. Merci. Et merci pour votre émission.
Vous êtes gentil. Merci, Christian.
Journée.
Greg, tout va bien ?
Écoutez, ça va pas mal, oui, merci.
J'aime bien l'hymne américain.
Ah oui ?
Ton.
Ça ? Ah, j'aime bien. J'étais presque sûr que vous aviez me demandé. Ouais.
Et alors, les Américains ont une tradition, avaient une tradition qui est parfois reprise un peu partout maintenant, c'est la main sur le cœur. Avant, on ne mettait pas la main sur le cœur, mais les Américains mettent toujours la main sur le cœur pendant l'hymne américain. De la même manière que le président tout à l'heure va jurer sur la Bible, ce qui nous étonne toujours quand même. Nous sommes un pays laïque, nous.
C'est vrai.
Et sur les dollars, c'est dit, il y a une phrase en référence à Dieu. L'Amérique croit en Dieu. Ça vous laisse froid, hein, tout ça.
Ça me laisse pas froid, je vous écoute avec attention, comme toujours. Et accompagné par cette hymne américaine, je trouve que ça vous va pas mal.
La pub.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Si je vous dis, Greg, regardez dans la clarté du matin le drapeau par vos champs célèbre dans la gloire, dont les étoiles brillent dans un ciel d'azur, flottant sur nos remparts, annonçant la victoire, l'éclair brillant des bombes éclatant dans les airs, nous prouva dans la nuit cet étendard si cher.
Je me dis que vous êtes extrêmement cultivé, que vous avez beaucoup de mémoire.
Et c'est quoi ?
Je sais pas.
C'est les paroles de l'hymne américain. Ah. Que notre bannière étoilée flotte encore, emblème de la liberté, de la liberté. François Braun est avec nous. Je préviens les auditeurs qui n'ont pas le moral, qu'ils peuvent, je vais pas leur dire de fermer la radio, bien sûr, mais je les préviens que François Braun est président de SAMU Urgence de France. Bonjour Monsieur Braun.
Bonjour Monsieur Pro.
Je les mets en garde parce que vous êtes un peu pessimiste, Monsieur Braun, et vous nous annoncez un troisième confinement inévitable. C'est bien ça ?
Alors je parle pas de confinement puisque c'est pas dans mon domaine, mais en tout cas je pense qu'il faut s'inquiéter d'une troisième vague. Oui, bien sûr, bien sûr. Si on se rapporte un peu sur ce qui s'est passé au printemps dernier, on avait un regard assez lointain sur ce qui se passait à l'étranger. Hein. C'était un peu le syndrome Tchernobyl, le nuage, comme le virus allait pas passer la frontière. Et on a vu le résultat. Donc il faut certainement pas faire la même erreur aujourd'hui. Regarder ce qui se passe à l'étranger, et particulièrement en Angleterre, et se préparer à un choc supplémentaire.
Oui, mais là où je vous trouve formidable, Monsieur Braun, c'est que en mars dernier, il n'y avait pas de gestes barrières, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas les restos fermés, il n'y avait pas le cinéma fermé, il n'y avait pas le théâtre fermé. Donc si vous me dites qu'un an plus tard, après toutes les mesures qu'on a prises, on va avoir une troisième vague qui est l'équivalent de celle qu'on a prise l'année dernière, à ce moment-là, je me dis, ça sert à rien en fait de faire toutes les précautions que nous avons.
Non, les mesures que nous avons prises ont été efficaces sur la première vague, ont été efficaces en partie sur la seconde. Pour autant, on n'avait pas non plus il y a un an un variant qui était plus contagieux. Et puis on voit bien qu'il y a une tendance au relâchement des mesures barrières.
Vous trouvez ?
En fait, oui, bien sûr, oui. Donc mon message n'est pas de dire ça va être dramatique ou quoi que ce soit. Ça veut dire au contraire, respectons scrupuleusement les mesures barrières pour éviter cette troisième vague. Et puis vous savez, là maintenant, l'hôpital au jour d'aujourd'hui est plein comme un œuf. Plein comme un œuf.
Pourquoi vous dites plein comme un œuf ? Il y a 2800 cas en réanimation. Et on peut monter jusqu'à 6 ou 7 000.
Oui, mais il n'y a pas que le Covid. Là, vous parlez du Covid, mais il y a toute l'activité de l'hôpital qui a repris sur l'ensemble des pathologies. Le Covid représente moins de 50% de tout ce qu'il y a dans les hôpitaux. Ce qu'on se rend compte sur le terrain, et c'est partout, c'est qu'on a du mal à hospitaliser les patients parce qu'il n'y a plus de place dans l'hôpital. Donc finalement, la moindre vaguelette qui va nous arriver, va nous passer au-dessus de la tête de façon quasi certaine. Donc il faut être extrêmement rigoureux, ne pas relâcher la tension et les mesures de protection, en tout cas dans les semaines qui viennent.
Au fond, ce que vous préféreriez, mais c'est votre point de vue, on le comprend, le point de vue d'un président de SAMU Urgence de France, c'est s'il pouvait y avoir un confinement demain matin qui dure 6 semaines, vous diriez, avec tous les arguments que vous venez de développer, que ce serait peut-être une bonne solution.
Ben le confinement strict, malgré tous ces effets néfastes, hein, il faut les reconnaître aussi sur plein d'autres points, mais d'un point de vue strictement sanitaire, a été très efficace. Et on l'a vu avec, au début de l'été, un taux de contamination qui était très très bas. là, on se rend bien compte qu'il va falloir jongler entre un taux de contamination qui va rester quand même un peu élevé et des patients qui vont continuer à venir à l'hôpital avec le reste du fonctionnement du pays, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais attention à ne pas être dans un optimisme béat, de se dire ça y est, la vaccination, on est sauvé. Ce qui se passe en Angleterre doit nous alerter.
Alors, il y avait ce matin un conseil de défense et évidemment, on arrive à savoir à peu près ce qui s'est dit, notamment sur le reconfinement. C'est vrai qu'on est sur un plateau ascendant. Le couvre-feu a été déclaré la semaine dernière. C'est trop tôt pour voir les effets. Il faut attendre 2 semaines. Il est possible que cela permette de freiner la circulation du virus. C'est ce qui s'est dit ce matin. Mais on ne peut pas exclure que la situation se dégrade et nous prendrons les mesures. Je mets évidemment des guillemets puisque c'est ce qui s'est dit dans ce conseil de défense. Et en tout cas, l'idée du gouvernement, c'est de laisser une chance, puisque le mot a été prononcé ce matin en Conseil de défense, laisser une chance à ce couvre-feu. Vous y croyez ?
Oui, oui, forcément. Mais vous savez, quelque part, depuis un an, on est forcé d'avancer un petit peu dans le brouillard quand même. Alors, on en sait plus qu'il y a un an, mais on ne sait pas encore tout sur ce virus et sur ces nouveaux variants. Donc oui, laisser une chance au couvre-feu, ça semble tout à fait licite, puisque c'est bien la circulation des personnes qu'on veut limiter. Hein. On parle du virus qui circule, mais c'est nous qui circulons avec le virus. Donc on entend bien que si on limite la circulation des personnes, avec tous les problèmes que ça entraîne, on limite la circulation des virus. Donc oui, laissons une chance. Je pense que les délais sont assez raisonnables pour laisser 15 jours, 3 semaines avant de devoir prendre une décision, soit la même, soit plus difficile, en fonction de l'évolution de la situation.
En tout cas, demain, il y aura la conférence de presse ou d'ailleurs une intervention d'Olivier Véran dans un 20h. C'est ce que disait Benjamin Sportouche tout à l'heure. Et a priori, il n'y aura pas d'évolution sur les restrictions nationales cette semaine. Merci, Monsieur Braun. Merci beaucoup. Merci. Il est 13h26. On peut parler évidemment de toutes les actualités, mais on peut parler de Claude Riche et de Catherine Riche, puisque c'était un couple qui était si fusionnel d'ailleurs qu'ils se ressemblaient tous les deux. Comme si elle et lui dissimulaient derrière le sourire des gracieux que la vie est une farce et que l'élégance oblige à ne jamais se plaindre. Eh bien, Catherine Riche, vous le savez sans doute, est aujourd'hui au paradis des comédiennes. Elle est morte hier. Et c'est étonnant de voir le nombre d'artistes, de comédiens qui nous ont quittés ces derniers temps. Jean-Pierre Bacri, Jean-Loup Dabadie, Guy Bedos, Michel Piccoli, Tony Marshall, Claude Brasseur, Michael Lonsdale, Jean-Pierre Vincent, Roger Carrel, Sean Connery, Kirk Douglas, Juliette Gréco, Zizi Jeanmaire, le chanteur Christophe, la chanteuse Annie Cordy, Robert Castel et j'allais dire, et tant d'autres. Et quelques autres, comme Vladimir Yordanov, que vous avez peut-être vu hier dans Un air de famille, qui est le frère de Jean-Pierre Bacri dans le film. C'est frappant le nombre de comédiens, d'artistes qui nous ont quittés, comme si tous ces artistes qui avaient tant aimé le monde d'avant préféraient quitter la scène d'aujourd'hui avant que le rideau définitivement ne tombe.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Monsieur Tessier, que se dit-il sur les réseaux ?
Le docteur François Braun, président de SAMU Urgence de France, était votre invité, Pascal. Il a tenu à nous alerter.
Je pense qu'il faut s'inquiéter d'une troisième vague, oui, bien sûr. Et se préparer à un choc supplémentaire. Mais...
Une troisième vague en mars. Soignants, partagez-vous cette crainte ? Est-on en train de perdre du temps avec le couvre-feu à 18h ? Faut-il reconfiner le pays ? Brigitte Macron était l'invité ce matin d'Alba Ventura.
Vous imaginez un nouveau confinement ?
Clairement, je ne l'espère pas.
Un nouveau confinement, qu'en pensez-vous ? Faut-il organiser un reconfinement par région dans les zones les plus tendues ? 32-10. Un échange musclé hier à l'Assemblée nationale sur les stocks de vaccins. Des élus pointent du doigt le manque de doses. Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole.
Il faut dire la vérité. La vaccination, c'est une opération de masse qui concerne le monde entier. Les capacités de production sont à bloc. Et la France en profitera au même rythme que les autres. Cessez d'affoler.
Cessez d'affoler, dit le Premier ministre. Vous êtes maire, vous avez un centre de vaccination. Dites-nous comment ça se passe dans votre commune. Il n'y aura ni repentance, ni excuse. Ce sont les mots de l'Élysée après la remise d'un rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Rapport réalisé par l'historien Benjamin Stora. Des actes symboliques sont envisagés. Nous attendons vos réactions, vos appels dès maintenant au 32.
Ça, c'est un bon sujet. pas de repentance, pas d'excuses de la France. Ça serait bien qu'on ait des auditeurs sur ce sujet, et notamment, pourquoi pas des auditeurs, j'ai envie de dire, des deux côtés. Forcément, des pieds noirs qui sont revenus en 62 ou qui sont revenus après, et puis pourquoi pas des jeunes Français issus de l'immigration, dont les ancêtres étaient parfois algériens, et qui ont envie de témoigner, pourquoi pas, avec un point de vue différent. Nous sommes avec Alain sur la troisième vague. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pro.
Et merci. Vous habitez Neuilly-sur-Seine, donc vous ne devez pas être loin de nous.
Non, nous sommes voisins.
Ah, alors, ça c'est bien.
Voilà. Alors, Monsieur Pro, je tenais à m'exprimer pour cette histoire de reconfinement. Personnellement, et j'en parle avec beaucoup de personnes de mon entourage, je pense que rien n'a été fait en amont comme ça aurait dû être fait. Je vais vous citer un exemple, deux exemples. J'ai des gens qui me sont très proches qui sont rentrés du Maroc, pour les uns il y a 15 jours, pour les autres la semaine dernière. Orly, aucun contrôle. Aucun contrôle, je répète. D'accord ? J'ai des bureaux aux Champs-Élysées, rue de Ponthieu, rue du Colisée, rue d'Artois. Vous avez entre 12h et 14h des gens qui sont au coude à coude pour aller dans les sandwicheries, que je conçois fort bien, pour acheter leur repas le midi. Si les brasseries étaient ouvertes avec des distanciations d'un mètre, comme c'était le cas, on n'aurait pas ce problème.
Mais ils ont des masques.
Ils ont des masques, bien sûr, mais dans une brasserie aussi, vous avez un masque avant de déjeuner, puis quand vous déjeunez, bah, vous le posez. Bon, c'est quand on est à 1 mètre, 1 mètre 50, je pense pas que le microbe. Voilà. Là, aujourd'hui, vous avez les transports en commun. J'ai pris la ligne 13 il y a une dizaine de jours. J'ai attendu 3 métros pour pouvoir entrer dans le métro, Monsieur Pro, à 9h du matin. C'est un scandale. Pourquoi n'y a-t-il pas des gens devant les rames en laissant entrer, par exemple, 20 personnes par rame? Et puis la RATP, la SNCF, etc. mettent davantage de trains à disposition. Aujourd'hui, pourquoi on laisse tous ces gens voyager entassés comme des moutons là, qui vont à la foire? Parce que, comme ça, ce sont les employeurs qui paient les salaires, qui paient les charges. D'accord? C'est pas l'État. Voilà la seule unique raison. On met la santé des gens dans la balance. Voilà. Aujourd'hui, rien n'est fait comme ça doit être fait. Hein, le virus se propage, c'est pas avec des blablas, etc. Et puis ça, il faudra.
Mais c'est quoi la politique alternative selon vous?
La politique alternative, il faut que les gens, bon, comme tout le monde le fait, dans les supermarchés, prenez le cas Levallois-Perret, où je vais souvent, où je suis ancien élu de Levallois, vous avez à Leclerc, Levallois, et comme Auchan, comme partout ailleurs, vous avez le samedi, etc., le dimanche, la semaine, des familles entières...
Mais vous m'avez pas répondu, c'est quoi la politique alternative?
La politique alternative, ce qu'il faudrait faire, vous voulez dire?
Bah oui.
Moi, la politique alternative...
Vous contestez ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est votre proposition?
Alors moi, ma proposition, c'est d'une part de rouvrir... Le couvre-feu, c'est parfait. Couvre-feu, c'est bien, 18h, les gens rentrent chez eux, etc. Mais il faut rouvrir les brasseries. On laisse
mais pas
les
le
commerces...
soir.
Pardon?
Mais pas le soir, manifestement.
Mais pas le soir, mais qu'on laisse ouvrir les brasseries de 8h le matin à 18h. Et puis que les gens puissent travailler le midi, aller déjeuner tranquillement et pas qu'ils soient comme ça entassés. Qu'on limite les transports avec tant de personnes dans les transports, n'est-ce pas? Que dans les supermarchés, une seule personne par famille va faire les courses. Et puis voilà, et puis on va y arriver petit à petit. Mais là, aujourd'hui, quand vous dites à 18h, on doit pas se voir, etc. Mais les gens, quand ils se retrouvent entre amis chez eux à 10, 12 personnes, et puis on a 50 exemples comme ça. C'est là où est le problème. Là, le problème, il est là. Lorsque vous avez des gens de bureau qui ont une heure pour déjeuner, ils sortent à midi à 13h, ils vont acheter à déjeuner. Donc ils sont entassés, vous avez des queues de 30-40 personnes devant des magasins qui font de la vente à emporter.
Et puis les gens... Merci.
Voilà, Monsieur Pro.
Ben non, mais merci de votre contribution,
mais
si j'ose dire.
Fermez les frontières, c'est la première chose. Et les frontières européennes, toutes les frontières.
Mais
voilà,
faut tout faire. Ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est que, en fait, c'est une solution de bon sens. C'est-à-dire que si, je crois que l'Australie va fermer pendant un an, si tu dis plus personne n'entre sur le sol français, sauf cas particulier, j'imagine, évidemment, tu n'importes plus le virus de l'extérieur.
Bon. Absolument.
Alors après, ça doit être difficile à mettre en place, déjà à contrôler. Comme toujours, dans un pays comme le nôtre, c'est difficile. Dans les dictatures, manifestement, c'est plus facile, dans les régimes autoritaires. Mais c'est vrai qu'en théorie, ce serait une bonne solution. 13h37, la pub. Et les autres sujets, si vous êtes étudiant, hein, je l'ai dit, vous pouvez parler, venir nous parler. Catherine Rich, hein, si vous avez envie de lui rendre hommage, l'épouse de Claude Rich. Vous étiez jeune, mais elle avait joué dans Les Rois Maudits, cher Greg. Vous n'avez pas vu Les Rois Maudits avec le Baron Écarlate, qui était joué par Jean Pia. Mao d'Artois, ça vous dit rien tout ça?
Non, ça me dit rien.
Claude Barma, c'était les années 70. Maudi, vous serez tous Maudi. Jusqu'à la 5e génération ou la 14e, je ne sais plus.
Je ne suis pas capable de dire si vous faites une bonne imitation ou pas. Là.
Mais non, c'était le trésor des Templiers, pas le trésor d'ailleurs, le grand maître des Templiers qui, sur le bûcher, il avait été brûlé par Philippe le Bel. Et il disait « Maori, Maori, serez tous Maori !» Jacques Trémolet, je ne sais plus comment il s'appelait, Trémolet, il me semble. J'ai vérifié comment il s'appelait, le monsieur le Templier, si j'ose dire. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'était Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, qui avait dit « Maudit ! Vous serez tous maudits !» Et de fait, Philippe le Bel, dans l'année, quick, il est mort. Et oui, tous les rois après sont morts, d'où les rois maudits. Charles, troisième vague, bonjour.
Bonjour,
et
bonjour
merci, Pascal. Merci d'être avec nous. Vous êtes là?
Oui, pardon, oui, je suis là.
Vous êtes là. Donc la troisième vague. D'abord, est-ce qu'elle vous fait peur et est-ce que vous recommandez un reconfinement?
Bah, je suis un peu comme le docteur Braun, je le vois dans ma boule de cristal en tout cas. Mmh. C'est dans toutes les courbes de tous les pays qui nous entourent. Cette troisième vague, elle est massive et en plus, elle est double. Elle arrive par le variant anglais, elle arrive par le variant sud-africain. On nous apprend qu'il y a un autre variant brésilien. Heureusement, il y a des gens qui séquencent le virus et qui voient qu'en fait, il est protéiforme, il mute sans arrêt. Donc oui, les vagues successives arrivent et celle-ci est énorme. Moi, je la vois, mais ce qui me dérange le plus, si vous voulez, c'est que on la prépare pas. Voilà, c'est exactement comme le plan vaccinal, c'est pas préparé, il y a pas de chef.
Et mais le couvre-feu, c'est pas une manière de la préparer? Le vaccin, c'est pas une manière de la préparer?
Je ne sais pas quelle est la raison du couvre-feu, quelle est la raison de fond. Je ne pense pas qu'elle soit scientifique. D'ailleurs, je ne sais pas où sont les conclusions du rapport, des rapports du comité scientifique. Soit dit entre nous, ça c'est la commission d'accès aux documents administratifs qui le dit. Hein. Donc, je ne sais pas quel est le fondement de cette décision. Le couvre-feu, ça comprime les gens entre 17 et 18 heures dans les transports en commun et ça les met tous au supermarché le samedi. Champion le couvre-feu, c'est magnifique.
Mais là encore, je pose toujours la même question. Quelle est, selon vous, la politique alternative?
Eh bien, pour moi, il y en a deux. Soit on a une stratégie de suppression de la menace virale par un confinement dur, comme font nos voisins allemands, par exemple. Là, pour le coup, on empêche la circulation au maximum. On ferme le système scolaire et, en effet, on essaye de freiner la circulation du virus. Soit on laisse l'économie fonctionner et on soigne. On sait aujourd'hui quand même qu'on peut soigner et puis il y a la vaccination. Donc entre la vaccination et les soins possibles...
Ben c'est ce qu'on fait, ça.
Il y a une thérapie qui est quand même adaptée.
Mais ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Ben c'est ce qu'on fait, mais avec le couvre-feu. Alors ben, pourquoi le couvre-feu qui embête toutes les entreprises et qui ampute l'économie?
Ce que je comprends pas, c'est que c'est deux options très opposées que vous proposez.
Bien sûr, parce que c'est aux politiques de faire le choix.
Mais oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position à vous.
Ben, ma position à moi, ce serait bien entendu de laisser fonctionner l'économie et de soigner et de vacciner massivement avec un vrai plan vaccinal, avec, comme je vous l'avais dit la dernière fois...
Il y a eu 100 000 personnes hier de vaccinés. Moi, oui, on a été tous sévères sur la vaccination. Quand oui, ça semble bien marcher, il faut le dire aussi. Il y a eu 105 000 personnes vaccinées hier en France. 105 000 personnes par jour, ça fait un rythme de 3 millions par mois, nous sommes d'accord.
Ouais. On va être entre 1 et 1,5% de la population française vaccinée, alors qu'on arrive début février.
On est le 20 janvier. Là, quand même, et là aussi, on a été très rude, moi, le premier. Convenons que 105 000 personnes hier de vaccinées, c'est un rythme de 3 millions de personnes par mois. Il y a 13 millions de gens qui sont fragiles en France. Ça veut dire que dans 2 mois ou 3 mois, tout le monde, tous les fragiles sont vaccinés. Si les fragiles sont vaccinés, ils ne rentrent plus dans les hôpitaux.
Oui, mais Pascal, je connais un centre de vaccination où il reste 11 vaccins. Pfizer a annoncé qu'il allait avoir des retards dans les livraisons. Ça va encore venir amputer ou freiner le plan vaccinal qui n'était pas au point. Oui, ok, il est arrivé à vitesse nominale. D'accord, peut-être. Sauf qu'il va y avoir des problèmes, comme tous les pays en auront. Et donc, nous, on les a plus tard que les autres. Par ailleurs, si on confine dur, vous continuez comment la vaccination ?
Oui, non, mais c'est des questions que chacun se pose et auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Merci en tout cas, Charles. Alors, non, Charles et Charline, puisque maintenant c'est Charline, mais Charles peut rester avec Charline. C'est très joli. Bonjour, Charline.
Merci.
Bonjour, Charline. Merci. Il n'y en a pas beaucoup. Bonjour, des Charlines.
A priori, non.
Vous aimez votre prénom ?
Oui, j'aime beaucoup mon prénom.
Ah oui, moi je trouve vraiment c'est charmant. Vous habitez Cholet ?
Exactement.
En Maine-et-Loire ?
Oui.
Ben oui, tout près de la Loire-Atlantique.
Aussi, et de la Vendée.
Et de la Vendée. Alors, vous êtes directrice d'un établissement de service.
Oui, une résidence-service, plus exactement. Une résidence-service pour personnes âgées.
Donc là, vous êtes, j'ai envie de dire, en contact avec des gens qui sont fragiles.
En contact avec une population jugée comme fragile, vulnérable, tous les jolis termes qu'on a utilisés là, ces derniers mois, tout à fait.
Bon, quel est votre sentiment, votre analyse ? Est-ce qu'il faut... des restrictions plus rudes ?
Pas forcément, parce que ce que nous, on a constaté, on a passé l'année 2020 sans déplorer aucun cas de Covid dans la structure, ni au niveau des résidents, ni au niveau du personnel. Donc ça, c'était notre victoire. Puis on s'est dit, on va aborder l'année 2021 avec la solution du vaccin. Ça va donner une bulle d'air, c'est de l'espoir. On va passer l'année beaucoup plus sereinement. Et après, par rapport à ça, on a en effet 2 stratégies. Soit on confine totalement avec des restrictions très sévères, très strictes, très dures. Mais ce que l'on a constaté en appliquant cette stratégie au mois de mars-avril 2020, puisque c'était les consignes qui nous étaient données, c'est que ça a entraîné énormément de conséquences, de dégâts sur les états de santé morale et physique de nos résidents. Donc du coup, on a pris un tout autre tournant. On a ouvert la structure pour toutes les entrées. On a autorisé nos résidents à sortir comme ils voulaient, où ils voulaient, quand ils voulaient. Et en appliquant cette stratégie, du coup, les résidents ont retrouvé un état de morale un peu plus gai, plus joyeux, c'était plus intéressant d'aller se balader, de voir les copains. On retrouve un état physique qui est plus adapté aussi. Et tout ça, on a réussi à travailler sur ce dilemme liberté-sécurité sans déplorer de cas.
Mais là, c'est vous qui prenez la décision toute seule, voilà, où vous êtes soumis à aucune autre autorité que la vôtre, si j'ose dire.
Je la prends en me disant que je fais peut-être pas ce qu'il y a à faire par rapport aux textes qui nous sont donnés, en effet. Mais j'ai jugé que le risque était plus important. Si je laissais les portes fermées, le risque de dégradation de l'état de santé des résidents était plus important si on laissait les portes fermées que d'ouvrir les portes, enfin si je schématise comme ça, et qu'on laisse rentrer le virus. Du coup, on a ouvert les portes, le virus n'est pas rentré, tout le monde s'est senti très responsable. Alors bien sûr, on respecte les gestes barrières, le port du masque est obligatoire dans la structure, il y a un registre pour les visites, mais ça reste des choses auxquelles on s'habitue, hein, malheureusement aujourd'hui aussi. Et voilà, c'est notre victoire à nous aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, maintenant, je vous félicite parce que c'est à la fois intelligent et courageux, et généralement, ce n'est pas 2 qualités qui vont ensemble.
Ben, je vous remercie. Alors après, moi, je ne me félicite pas. Je vais féliciter les résidents qui ont compris le message, les familles et puis l'équipe. Donc ça, c'était notre fierté. Maintenant, là où on a une déception aujourd'hui, très clairement, c'est que l'étape à suivre, c'est de dire, OK, il y a le vaccin. Le vaccin va être un moyen de se protéger, de se sécuriser et puis de retrouver un peu plus de... pas de liberté, parce qu'on l'a, mais en tout cas de souffler un peu et puis d'arrêter d'avoir cette épée de Damoclès sous le dos.
Quel âge ont en moyenne, parce que c'est pas un EHPAD, hein, nous sommes d'accord, votre établissement de service.
Exactement. Pour autant, la population se trouve dans le même niveau d'âge, puisque c'est, la moyenne d'âge est quasiment de 89 ans.
Mais c'est quoi la différence, alors?
Alors, on est sur une structure qui est dite non médicalisée.
D'accord. C'est donc les gens qui sont chez vous sont en bonne forme?
Sont en bonne forme, ou en tout cas, ont la capacité à se prendre en charge en grande partie eux-mêmes. Après, on est là aussi pour les accompagner quand même.
Ben merci beaucoup Charline, vraiment merci de ce témoignage en direct de Cholet. Greg Caranoni, vous nous préparez peut-être une surprise, je sens que vous cherchez dans vos archives quelque chose.
Alors j'ai quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, vous parlez des rois maudits.
Oui.
J'ai un petit extrait à vous faire écouter.
Écoutons.
Maudits, maudits, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon rapte.
Voilà. Eh oui, ben c'est Jacques de Molay.
Exactement.
Il rigolait pas, Jacques de Molay. Hein. Alors là, il est sur le bûcher et il annonce que les rois seront maudits jusqu'à la 13e génération. Et de fait, ils ont tous été maudits. Et notamment Philippe le Bel, qui était mort quelques mois après.
Vous voulez rajouter encore une petite anecdote?
Non, rien. Du tout. Maudits!
Vous faites presque mieux, je trouve.
C'est ça, c'est la version de Claude Barma que vous avez trouvée là?
Ça, c'est la version avec Gérard Depardieu.
Ah oui, c'est la version, parce que je ne reconnaissais pas la version de Claude Barma que je voyais quand j'étais enfant. Enfin, ça a un peu de rapport avec notre émission d'aujourd'hui. Donc, la pub.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pas de repentance et pas d'excuses. C'est une information qui est arrivée en fin de matinée. Ce sont les recommandations de Benjamin Stora qui va rendre aujourd'hui son rapport sur la décolonisation et sur l'Algérie. Et c'est un sujet qui peut vous faire réagir. Nous sommes avec Daniel. Bonjour.
Allô, bonjour monsieur Pascal Pro.
Bonjour.
Je suis contente de vous avoir.
Merci d'être avec nous.
Voilà.
Ce qui est important de dire, c'est que vous êtes né à 100 km de Constantine.
Exactement, je suis née à Bonne, c'est une petite ville, enfin une petite ville, non, on était quand même 100 000 habitants, en bord de mer. Voilà, c'est au nord de, donc c'était à gauche de Philippeville, voilà, et c'était une très belle ville. Alors, j'ai entendu hier que Monsieur Bacri était né à Philippeville, voilà, ça je l'ai entendu dans une info. Donc il n'était pas très loin de chez nous, mais toujours le bord de mer. Alors nous étions un port. Avec Oran, Alger et Bonne. Et Bonne, c'était une région qui était très, très, très cultivée. Nous avions toutes les cultures de coton, de tabac, nous avions les cultures des agrumes, nous avions les minerais à Soukaras, à Wenza, voilà. La ville de Monsieur Bedos, hein, voilà. Et voilà. Alors, nous étions une ville vraiment magnifique, magnifique, magnifique.
Il voilà. n'est pas question de présenter des excuses, affirme l'Élysée. Et c'est pour réconcilier évidemment les mémoires. Emmanuel Macron, oui. qui procède à plusieurs actes symboliques dans les prochaines semaines. Quel est votre sentiment sur cette période?
Alors, moi, sur cette période, voilà, je dis surtout pas d'excuses, parce que vous saviez, nous étions très bien avec les Algériens. On appelait ça les Algériens, alors je comprends pas. Parce que moi, j'ai une amie...
Qui n'avait pas les mêmes droits quand même que, si j'ose dire, c'était un département, l'Algérie, hein, je le dis, et on le répète à chaque fois, c'est vrai, mais les Algériens n'avaient pas les mêmes droits que ceux qui étaient, si j'ose dire, des Français, même si les Algériens étaient aussi des Français.
Mais... Attendez, monsieur Pro, je vais vous couper. Vous saviez, nous avions à l'époque, parce que moi je rigole quand on me dit aujourd'hui, on a monté des centres de santé il y a à peu près 5-6 ans en France. Hein? Bon, eh bien nous les avions en Algérie, les centres de santé. Et les dames, les musulmanes, eh bien elles allaient accoucher et elles allaient se faire soigner dans ces centres de santé.
Mais le droit de vote n'était pas reconnu pour tout le monde, par exemple.
Ah voilà, non, c'est évident. Bon, mais moi j'étais jeune.
C'est ennuyeux de dire à des... Convenez que c'était ennuyeux ou même parfaitement scandaleux, hein, disons-le, que des gens qui étaient français comme vous, qui habitaient un département qui était le département de la France, ne puissent pas voter, par exemple, pour une élection présidentielle.
C'est évident, c'est évident. Et moi je dis même, parce que vous savez, je suis rentrée, j'avais 16 ans, et moi demain je retourne à Bonne, mais alors les yeux fermés. Hein,
mais vous n'êtes pas retournée depuis?
Non, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas retournée.
Il y a 60 ans.
Oui, Parce que donc j'avais 16 ans et mon papa, par le biais de ma tante qui était déjà à Toulon, parce que après on est venu directement à Toulon, m'avait fait inscrire dans une école privée. Voilà. Donc j'ai assisté à l'indépendance. Et là, c'était plus le même jeu. Voilà. C'était moi, j'ai assisté tout. Moi, j'ai vu des avenues, Monsieur Pro, pleines de meubles. Je les ai vus de visu, quoi.
C'est oui, pas. C'était en les 62 quand peur. Les Français sont rentrés. C'est ben les voilà, pieds noirs. C'est Alexandre Arcadi raconte très bien ça dans le coup de Sirocco, par exemple. Vous avez des enfants, Daniel?
Alors moi, j'ai deux enfants. J'ai un fils qui a votre âge et j'ai une fille qui a 5 ans de moins. Donc j'ai mon fils qui a 54 ans et ma fille 49 ans.
J'ai l'impression que l'histoire des pieds noirs s'arrête avec vous et que vos enfants, parfois, ne vous comprennent même pas parce qu'ils sont nés sur le sol français. Et cette histoire de pieds noirs, elle va s'arrêter avec vous, précisément.
Non, eh ben, je vais vous raconter, moi, parce que je suis une mamie très proche de mes enfants. J'ai été très proche de mes enfants. J'ai même pas travaillé pour élever mes enfants. Bon, c'est comme ça, c'est mon truc. Et mes enfants sont très, très proches de moi. Et j'ai trois petits-enfants. Et ben, je leur raconte. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu ma petite fille qui se trouve à Paris pour des écoles. Elle est dans une grande école de mode à Paris. Et je lui disais, Anaë, tu vois, mamie, c'est comme ça. Elle avait une grand-mère. Voilà, qui était née à Bonn. J'avais une grand-mère, Monsieur Pro, qui était cuisinière chez le député maire de Bonn. Voilà, voyez.
Ils sont sensibles à cette histoire, même vos petits enfants.
Ah oui. Alors, et j'avais un beau-père. Mon beau-père était un très grand footballeur. On l'appelait Moumous. Il avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques. En France. Il a joué à l'époque
aux Olympiques en France en 1924.
Il était né en 1920, mon beau-père.
Oui.
Donc il a joué avec, il a connu, c'était un ami de monsieur, comment qu'il s'appelle, il y avait Piantoni, Coppa et
Jean-Vincent?
Non, Jean-Vincent c'était
Juste Fontaine.
Juste Fontaine,
il était pieds noirs, Juste Fontaine, vous avez raison. Je suis obligé de vous couper, Daniel, parce que ça va être le flash de 14h. Merci en tout cas pour ce témoignage. C'est une histoire très particulière que celle des pieds noirs, bien évidemment. Le flash d'Olivier Bois, tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Des actes symboliques sont prévus, mais il n'y aura ni repentance, ni excuse à la suite de la remise mercredi d'un rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie par l'historien Benjamin Stora. C'est l'Élysée qui communique. Nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous pensez
Bonjour
que c'est...
Pascal, vous
Bonjour Jean-Pierre, vous pensez que c'est ce qu'il faut faire?
Oui, c'est sûr. La France n'a pas à se repentir pour ce qui s'est passé il y a plus de 60 ans, quoi.
On va en parler dans deux secondes. Mais le rappel des titres avec Olivier Bois et évidemment la situation américaine.
Oui, on va partir à Washington en direct parce que Donald Trump s'apprête à quitter la Maison Blanche. Lionel Gendron, on vous retrouve en direct à Washington. L'hélicoptère de la présidence américaine vient de se poser sur la pelouse de la Maison Blanche.
Oui, Marine One attend le président, attend Donald Trump. Il est sur la pelouse, effectivement, et le personnel de la Maison Blanche qui attend également, sans doute, pour applaudir le président. Les cartons ont été mis à bord de Marine One qui va se diriger vers la base d'Andrews, où il y aura une cérémonie pour rendre hommage à Donald Trump, et puis ensuite direction la Floride et Mar-a-Lago, à bord cette fois d'Air Force One. Ce sont donc les dernières minutes de Donald Trump à Washington en tant que président.
Merci beaucoup, Lionel Gendron, on suivra ça tout au long de l'après-midi évidemment avec vous. C'est à 18h que Joe Biden va devenir officiellement 46e président des États-Unis. Il va prêter serment sur les marches du Capitole avec 2000 invités à peine, là où d'habitude il y a des millions de personnes rassemblées, évidemment à cause de la crise sanitaire. Avant son départ, Donald Trump aura une dernière fois fait un coup d'éclat en graciant la nuit dernière 27 personnes, notamment un ancien conseiller. Sur l'épidémie de coronavirus, un nouveau conseil de défense s'est tenu ce matin. D'après les les informations d'RTL, le gouvernement devrait annoncer que les remontées mécaniques au ski ne vont pas rouvrir au 1er février. 23 000 nouveaux cas ont été détectés hier. Les admissions en réanimation ont augmenté également et beaucoup de responsables médicaux s'inquiètent de voir l'épidémie redevenir incontrôlable au mois de mars à cause notamment du variant anglais. Le temps demain, gris et pluvieux sous la diagonale Bordeaux-Metz en passant par Bourges ou Auxerre où il pleuvra aussi. Un peu plus ensoleillé de la Bretagne au nord, mais la pluie gagnera l'ensemble du territoire au fil de la journée. Les températures seront douces. Demain matin, entre 6 et 12 degrés du nord au sud, Pascal.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Il est 6h de moins à Washington et effectivement, l'hélicoptère qui doit emporter Donald Trump est devant la Maison Blanche, sans doute dans le jardin de l'autre côté de la façade qu'on voit traditionnellement de la Maison Blanche. Et c'est là que le président américain est attendu d'ici quelques secondes. Ça va être une image évidemment très symbolique de le voir sortir de la Maison Blanche, de monter dans cet hélicoptère et de partir pour la Floride via un avion Air Force One, disait Lionel Gendron il y a quelques instants, qui l'emmènera dans sa résidence privée. Mais revenons donc à la guerre d'Algérie. Pas d'excuses et pas de repentance, même s'il y aura des actes symboliques, c'est ce que précise également l'Élysée, actes symboliques dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie en 62. La journée nationale des harkis, le 25 septembre, la répression d'une manifestation d'Algériens le 17 octobre 61 et les accords d'Évian à chaque fois du 19 mars 62. La présidence de la République a précisé qu'à l'occasion de ces trois journées, il y aurait des actes symboliques. Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Pourquoi êtes-vous sensibilisé à cette période ?
Ben voilà, j'ai deux fins à mon père qui a connu malheureusement cette guerre-là, qui a été obligé d'aller la faire. Et voilà, j'estime que on a quand même envoyé là-bas des appelés, surtout des gens qui avaient rien demandé, qui ont été défendre un territoire pour soi-disant un maintien de l'ordre, qui en fin de compte, quelques années plus tard, on a très bien admis que c'était quand même une guerre. On a envoyé des gens au casse-pipe et au moins pour respect par ces gens-là, présenter des excuses aujourd'hui, je crois que ça serait un petit peu cracher sur leur tombe, quoi.
Il y a ça, et puis il y a peut-être également le signe que vous envoyez à ces jeunes Français qui sont issus de l'immigration, et peut-être n'est-ce pas une bonne chose que de les élever dans cette idée que la France leur doit des excuses ou une repentance, c'est ce qu'on entend parfois ?
Oui, c'est sûr, c'est même certain. Je veux dire, moi, j'ai grandi, j'ai été à l'école avec des gens qui étaient d'origine maghrébine, qui étaient d'origine portugaise. Il y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, on vivait les uns avec les autres, tout le monde s'entendait très bien. Mais pourquoi aujourd'hui, pour ces générations qui arrivent,
c'était pas aussi simple quand même.
Ah, c'était pas aussi simple, mais on s'entendait bien. Hein. Il y avait pas, vous savez, en plus j'étais à l'école avec ces gens-là. Leurs parents, pour certains, avaient fait la guerre d'Algérie, mais pour du mauvais côté, du mauvais côté pour ce qui était les Algériens, parce que les trois quarts c'était des harkis qui ont été rapatriés en France. C'est pas mieux, mais enfin, ça se passait bien entre nous, quoi. Il y avait pas de souci.
Oui, vous parliez à votre génération.
Oui,
quand vous aviez, quand vous aviez 15 ans, effectivement. Vous avez raison, voilà. Les tensions étaient moins grandes quand vous y aviez 15 ans.
On vivait très bien, avec ces gens-là. Il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sous prétexte qu'ils naissent en étant ou maghrébin ou portugais ou ce qu'ils veulent, ça y est, la France de toute façon doit se mettre à genoux devant eux. Non, s'ils sont nés en France, au contraire, ils devraient être fiers de. Ça, on n'a pas, je leur demande pas d'oublier leurs origines, mais ils devraient être fiers d'être nés sur un territoire comme le nôtre. Je veux dire, on est quand même un des pays, on est les moins malheureux dans on compare avec beaucoup de pays d'Europe, on est quand même un des moins malheureux. Je sais pas, moi, je comprends pas pourquoi on devrait présenter les excuses pour tout et pour rien aujourd'hui.
Ben merci Jean-Pierre de ce témoignage. Paul est là également, qui est né en Algérie. Bonjour Paul.
Bonjour Pascal. Ben oui, je suis né en Algérie à 70 ans. Alors je voudrais dire au monsieur qui a parlé juste avant moi, j'ai été à l'école et j'apprenais deux langues, le français et l'arabe. Dans notre école à El Bihar, j'étais au-dessus d'Alger.
Mon père à El Bihar vous étiez ?
Oui, j'étais à El Bihar. Mon père était au gouvernement général, il était dans la police, après ça a été un des premiers nommés à la police de l'air et des frontières, et mon grand-père était commissaire aux comptes en Algérie. Mais ce qu'il faut pas oublier, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie était un département français. Le problème, c'est qu'à l'époque, en voulant faire beaucoup d'humanisme, on a laissé une minorité s'incruster et on voit ce que ça donne à l'heure actuelle en Algérie. Parce que c'est toujours les descendants des mêmes qui ont pris le pouvoir qui sont à leur tête actuellement. Et les jeunes n'ont rien du tout en Algérie. Alors que c'est un pays prospère où il y a des richesses phénoménales. On n'a plus rien. Moi, je suis né là-bas. En 62, on m'a foutu dehors du pays de ma naissance parce que je suis né en France. C'était un département français. On m'a rien demandé. Maintenant, des excuses, je n'ai pas à en faire. Parce que ce qu'ont fait le FLN, ce qu'ont fait les Algériens à l'époque, les charniers de Français qu'on retrouvait, eux ne s'excusent pas non plus de ce qu'ils ont fait. C'était une guerre. Toute guerre est atroce. Mais on n'y peut rien. Maintenant, il faudrait tourner la page. Parce que on a près du quai Branly, vous avez trois colonnes qui sont mises pour les anciens combattants. Vous avez le nom de mon oncle qui a été décédé en Algérie le 26 mars aux manifestations où ce sont des Français qui ont été tués par d'autres Français. C'est ça qui est grave. Vous savez.
Les plus jeunes comprennent mal cette histoire parce qu'on le dit à chaque fois. Le Maroc, la Tunisie, c'était ou des protectorats ou des colonies. Là, l'Algérie, c'était un lien particulier. C'était un département. Et ce que vous venez de dire est tout à fait instructif. Vous dites on m'a chassé du pays de ma naissance. Ouais. Et j'ai souvent entendu ces témoignages de pieds noirs qui disent vous ne comprenez pas le traumatisme que nous avons vécu. Imaginez-vous vivre dans une région dans laquelle vous êtes né. Vous, en Bretagne ou en Corse ou que sais-je, et tout d'un coup, on vous dit vous devez quitter cette région parce que vous n'êtes plus chez vous. Et effectivement, l'Algérie était française depuis 1830, depuis très longtemps, mais ce traumatisme, il est encore vif parfois chez les pieds noirs.
Oh oui, il est vif chez tous les pieds noirs. Le problème, c'est que l'Algérie, c'est pas 1830. 1830, c'est une partie de l'Algérie, mais des Français sont en Algérie depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans. Ça, les gens oublient ces histoires. Et c'est vrai que, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que dans les écoles, maintenant, dans les lycées, dans les collèges, on oublie surtout les histoires. On oublie l'histoire. Vous savez, avant, on avait des cours d'histoire, géographie.
Esther, qu'on prend des lunettes de 2020 pour juger 1960, et c'est ça qui est difficile.
Ouais, c'est très difficile. Mais enfin, on n'oublie pas l'Algérie. Moi, c'est la terre de ma naissance, et malheureusement...
Vous êtes retourné?
Je n'y suis plus retourné. Hein. Et pourtant, des contacts...
Pourquoi vous n'y retournez pas?
J'ai du mal à y retourner parce que j'ai un oncle qui a été tué en Algérie. Le cimetière a été dévasté quand il y a eu l'indépendance. Donc, ça me fait très mal au cœur. Pourtant, j'ai des bons contacts avec certains amis parce que ceux qui ont sauvé mon père, c'était un ami à lui qui était un Algérien, qui était Issad, qui jouait au football avec lui et qui était dans la police avec lui, qui est devenu par la suite après le chef du renseignement algérien. Mais il y a beaucoup d'Algériens, même à l'heure actuelle, des vieux Algériens regrettent l'époque où c'était un département français. Parce qu'il y avait de la richesse, il y avait de tout.
C'était le sens de l'histoire. Convenez que tous les Occidentaux, tous les pays occidentaux ont décolonisé massivement après la Deuxième Guerre mondiale.
Notre
difficulté, nous, à décoloniser explique aussi, effectivement, les soucis que nous rencontrons parce que ça s'est fait, disons-le, dans le sang. En l'occurrence avec l'Algérie. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci Paul.
Beaucoup.
Et je regarde évidemment la Maison Blanche parce que il doit être 6h de moins à la Maison Blanche. Il est 8h du matin, 8h10. Et Donald Trump n'est toujours pas sorti pour rejoindre, faire les quelques pas qui le ramèneront dans cet hélicoptère. Et ensuite, il s'envolera pour son avion et rejoindra la Floride. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je ne sais pas si c'est une image historique, mais elle est au moins symbolique. À l'instant même, Donald Trump vient de quitter la Maison Blanche. Il est en train de saluer tout le personnel de la Maison Blanche. Il paraît avoir le regard fermé. Mélanie Trump est à ses côtés. Elle lui tient la main. Elle a des lunettes noires et les cheveux ramassés en chignon. Il est en train de s'exprimer, le président américain. Il n'y a pas de micro, mais il est en train très certainement de dire au revoir à ces personnes qui l'ont servi pendant 4 ans, comme c'est la tradition. Image très forte, il a une cravate rouge, comme il l'avait lorsqu'il avait été élu président des États-Unis, et comme il l'a souvent porté, et il est en train de dire au revoir, le pouce en l'air. C'est une image également caractéristique de Donald Trump qui se dirige vers l'hélicoptère. Ils sont seuls.
filmé par la télévision américaine. Seuls, ils vont monter dans l'hélicoptère une dernière fois, puisque cet hélicoptère, après, sera au service de Joe Biden. La garde américaine salue le président qui monte quelques marches, qui salue lui-même. Melania Trump entre la première dans l'hélicoptère et sans doute va-t-il se retourner, ce qu'il fait. Avec le poing levé, avec la main ouverte, il dit au revoir et il entre à l'instant dans l'hélicoptère qui s'envolera dans quelques instants. Laurent Tessier.
Nouveau sujet dans l'émission. Les étudiants sont appelés à descendre dans la rue aujourd'hui pour faire entendre leur voix. Une mobilisation à l'appel notamment de l'UNEF. Des rassemblements sont prévus dans toute la France. Et Brigitte Macron était l'invitée d'Alba Ventura ce matin. Elle a évoqué le sujet de la reprise des cours.
C'est sur la table. C'est sur la table. Et je pense qu'il va y avoir une certaine reprise des cours assez rapidement dans des conditions sanitaires possibles. C'est ce que j'ai entendu.
C'est-à-dire que le président s'en occupe ?
Oui, le président est excessivement sensibilisé à cela.
Étudiants, manifestez-vous aujourd'hui. Racontez-nous vos conditions de travail en ce moment. Les réponses du gouvernement sont-elles à la hauteur ? 32-10.
Nous sommes avec Lucas qui est étudiant et qui a 21 ans, qui habite Avignon. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Quel est votre sentiment et comment vous vivez cette période ?
Alors, c'est comme beaucoup d'étudiants, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui est sourd. On nous dit que des mesures sont sur la table, que c'est envisagé. Quand il y a des mesures qui sont faites, finalement, c'est des mesures qui répondent pas aux revendications. Alors aujourd'hui, oui, les étudiants sont dans la rue. Les étudiants sont dans la rue parce qu'on arrive à un point où il faut qu'on se fasse entendre parce qu'on apparaît vraiment comme des fantômes.
Mais c'est quoi, selon vous, et c'est une question récurrente, la politique alternative ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Que les facs rouvrent ?
Alors, il y a plusieurs revendications. Moi, pour ma part, et ce que j'en pense de la situation, évidemment que réouvrir les facs et accueillir beaucoup d'étudiants, c'est pas possible actuellement. Mais on peut imaginer, en disant, voilà, tous les étudiants sont en distanciel, une grande partie, on propose des mesures à côté, des aides financières, des aides psychologiques. On peut, comme je l'ai souvent dit, étendre les repas universitaires à 1 euro pour tout le monde, faire en sorte qu'il y ait une pression, une surcharge de travail qui serait moindre. Et puis surtout, c'est avoir une visibilité sur la situation. Parce que là, qu'est-ce qui se passe dans 2 mois, dans 1 mois ? Qu'est-ce que les étudiants vont faire ?
C'est une bonne question. Lucas, je vous interromps 2 secondes parce que l'hélicoptère de Donald Trump quitte la Maison Blanche. Marie-Noine, il est 14h17 précisément et il est donc 8h17 à Washington et l'histoire retiendra que la dernière fois que le président américain Donald Trump était sur le sol de la Maison-Blanche, en l'occurrence dans son jardin, eh bien c'était ce mardi 20 janvier, puisque aux États-Unis des passations de pouvoir ont lieu chaque 20 janvier. Ont toujours lieu le 20 janvier, plus exactement, c'est dans la Constitution américaine, de la même manière que l'élection a toujours lieu le mardi qui suit le premier mardi de novembre. C'est inscrit à jamais dans la Constitution américaine. Et donc, l'hélicoptère est en train de s'envoler à l'instant même, Lucas. C'est paradoxal ce que vous disiez, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas rouvrir, mais c'est en même temps la revendication essentielle pour les étudiants, Lucas.
Oui, évidemment, c'est la revendication essentielle, mais là, on sait que c'est pas possible. On est à l'aube d'un probable nouveau confinement. Il y a le variant britannique qui a pas encore frappé vraiment la France. On sait que c'est pas possible. Mais ce qu'il faudrait, ce serait que le gouvernement se concentre sur faire des mesures pour pallier un petit peu.
Mais lesquelles, par exemple ?
Mais par exemple, on peut imaginer dire pour tel cursus, pour tel étudiant, on sait que vous passez tel diplôme, peut-être qu'on va pouvoir un petit peu le décaler pour envisager un retour en présentiel après. On peut imaginer beaucoup de choses.
Sauf qu'on ne peut pas écrire un calendrier, puisqu'on ne sait pas la situation telle qu'elle sera dans 2 mois.
Oui, justement. Alors, je suis d'accord, on ne peut pas écrire un calendrier, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut tenir tous les étudiants comme ça en se disant peut-être que vous passerez votre diplôme, peut-être pas ? Il y a des mesures qui doivent être prises maintenant. Jean-Michel Blanquer explique qu'il va se prononcer pour le bac à la fin du mois en disant est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on fait un contrôle continu ? Pourquoi c'est possible de faire ça pour le bac et pas pour les étudiants ?
Est-ce que les mots de Brigitte Macron, qui traduit ceux également du président Macron, pour vous sont à la fois un espoir et un soulagement ?
Pas du tout, pas du tout. Alors encore une fois, c'est ce qu'on entend depuis maintenant un mois. C'est nous allons nous réunir avec les étudiants, nous allons envisager, nous allons prendre des mesures, nous allons faire. Moi, aujourd'hui, comme beaucoup d'étudiants, je ne veux pas savoir que c'est sur la table. Moi, j'ai besoin d'avoir des mesures concrètes pour pouvoir envisager l'avenir sereinement et me dire je sais pourquoi je travaille. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol qui est général et ça suffit. On parle de tout et de rien. Des remontées mécaniques, de ski, on parle du vaccin, etc. Oui, mais non, il y a encore 2,7 millions d'étudiants qui savent pas où ils vont et ça c'est déconcertant de voir ça.
Les étudiants comme le monde de la culture, comme le monde de la restauration sont évidemment percutés de plein fouet par cette épidémie. Merci beaucoup Lucas. Merci, je rappelle que vous êtes avignonnais, en tout cas que vous faites vos études à Avignon. Et c'est avec vous qu'on termine ce chapitre étudiant et que nous poursuivons la discussion avec Lionel Gendron, puisque Lionel, vous êtes notre correspondant aux États-Unis et que Donald Trump est désormais dans les airs.
Oui, l'hélicoptère présidentiel Marine One a décollé il y a 3 minutes exactement. On le voit ici. À l'image, il se dirige vers la base d'Andrews dans le Maryland, où Donald Trump aura droit à une cérémonie en tant qu'ancien, il est toujours d'ailleurs président, mais des derniers honneurs présidentiels, il voulait des honneurs militaires, notamment un passage d'avion, ça n'aura pas lieu, mais pas mal d'invités sont sur la base d'Andrews avant qu'ils prennent Air Force One direction la Floride et Mar-a-Lago.
C'est encore Air Force One d'ailleurs qui va le conduire jusqu'à sa résidence privée de Floride. Je disais qu'il était 6h de moins à Washington et 14h20 en France, c'est-à-dire qu'il est 8h20 chez vous.
Il est 8h20 et c'est effectivement Air Force One puisque jusqu'à midi, heure locale, 18h en France, c'est Donald Trump qui est encore le commandant en chef. Donc c'est lui qui a l'autorité sur Air Force One. C'est pour ça qu'il part à cette heure-ci. Sinon, après-midi, il aurait fallu qu'il demande l'autorisation de Joe Biden. Et forcément, ce n'est pas ce qu'il a envie de faire. Donald Trump, qui en quittant la Maison Blanche, ne s'est pas adressé à la presse. Il fera peut-être une déclaration lorsqu'il atterrira sur la base d'Andrews.
Est-ce que c'est le premier président américain qui n'assistera pas à l'investissement de son successeur?
Non, il y en a déjà eu 3 avant lui. Andrew Johnson était le dernier en 1869. Alors, c'est une habitude, on va dire. Ce n'est pas constitutionnel, il n'est pas obligé en soi. Mais c'est vrai que depuis plus d'un siècle, un siècle et demi même, on avait pris l'habitude que l'ancien président soit là pour faire une passation douce, tranquille. Il ne donnera pas aussi de message sur le bureau présidentiel. Normalement, les anciens présidents laissent un petit message sur le Resolute Desk. Ce ne sera pas le cas. Il y a aussi une visite traditionnellement dans la matinée de la Maison Blanche où les couples présidentiels prennent le thé et parlent un petit peu de la vie à la Maison Blanche. Ce ne sera pas le cas non plus. Donald Trump casse une nouvelle fois les codes.
Merci Lionel Gendron. Le débrief avec Laurent Tessier dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le rendez-vous désormais que toute la France attend.
Parce que c'est notre projet !
Et aujourd'hui, Pascal, nous voyageons dans l'émission direction... Joe Biden va prêter serment à 18h française. Il deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. Donald Trump vient de quitter la Maison Blanche.
We will make America great again.
Fake news, fake news.
So Joe Biden.
Goodbye, Mr. President. Mais que dites-vous sur Donald Trump au 3210? Stop ou encore, doit-il continuer la politique? Christian a pris la parole.
Trump n'a pas dit son dernier mot et je pense qu'il reviendra vite sur le devant de la scène.
Mais vous prenez la parole dans l'émission, mais nous apprenons aussi beaucoup de choses. Pascal, vous postulez pour intégrer l'émission Défait le Monde.
L'info pour briller au dîner.
Les Américains ont une tradition, avaient une tradition qui est parfois reprise un peu partout maintenant, c'est la main sur le cœur. Avant, on ne mettait pas la main sur le cœur. Mais les Américains mettent toujours la main sur le cœur pendant l'hymne américain. De la même manière que le président tout à l'heure va jurer sur la Bible, ce qui nous étonne toujours quand même.
Belle information. Et depuis le début de la semaine, on sent de la tension entre Greg Caranoni, notre réalisateur, et vous, Pascal.
Vous êtes ronchon quand même.
Vous trouvez que je suis ronchon?
Vous êtes un peu ronchon. Ouais.
Vous voulez dire que je ne danse pas très bien? C'est agréable.
Je suis complètement fou.
Ah oui.
Mais aujourd'hui, on est allé encore plus loin. Attaque ultime à l'antenne.
J'attends toujours ma montre.
Non. Mais pourquoi vous n'avez pas votre montre? Mais ça, c'est Greg Caranoni, parce qu'il est vendu. J'ai vu Greg Caranoni vendre des montres à la sauvette à la sortie d'RTL. Les montres pour les auditeurs, il les vend. Donc c'est très Greg.
Mais vous plaisantez, non, j'espère.
Je plaisante, mais je confirme.
Comment réagira Greg Caranoni? Leur relation va-t-elle durer? 32-10, tout ce climat vous chamboule, Pascal, on est en train de vous perdre.
Maudi! Vous serez tous Maudi! Maudi!
Eh oui, et vous prenez toujours le temps pour lancer des sujets inattendus.
C'est très joli. Bonjour, Charline.
Merci.
Bonjour Charline. Il n'y en a pas beaucoup. Bonjour, des Charline.
A priori, non.
Vous aimez votre prénom?
Oui, j'aime beaucoup mon prénom.
Ah oui, moi je trouve vraiment c'est charmant.
Ah, une véritable interview, ça faisait du bien. Et la bonne nouvelle est venue d'Eric qui nous avait appelé hier pour nous parler de sa maman, 90 ans. Elle devait attendre 3 semaines pour se faire vacciner. Le maire d'Orléans, Serge Gouard, était intervenu sur l'antenne. Et depuis, les choses ont bien avancé.
Le maire m'a rappelé le soir pour me dire qu'il y avait une place pour ma maman à 5 km de chez elle, à Fleury-les-Aubrais. Donc ma maman va se faire vacciner cet après-midi à 14h30 à Fleury-les-Aubrais. Au lieu de faire 50 km, elle va en faire 5.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé, comme dirait Joe Dassin.
Qui vient toujours un peu trop.
Merci Laurent, Flavie Flamand dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.